Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie, à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam, et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants.
Surtout s'ils me donnent de l'argent.
Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Sept ans à vivre au Vietnam. 6 ans à organiser des voyages dans le tourisme. Et oui, j'ai arrêté le tourisme l'année dernière. Et enfin, 7 ans à répondre à toutes vos questions sur le blog, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou par email. Du coup, j'ai une vision assez globale des questions que vous pouvez vous poser avant d'aller au Vietnam. Et surtout, je vois de façon assez récurrente les erreurs que vous pouvez faire. La classique étant, Brice, on va voyager au Vietnam, on arrive en février et on va faire que le Nord. Alors ça, vraiment, il n'y a pas plus grosse erreur, je pense, selon moi. Dans ce podcast, je vais vous donner les clés pour avoir une bonne approche du Vietnam. Vous avez peut-être réservé vos vols, vous êtes peut-être à 2 doigts de le faire, vous hésitez peut-être entre le Vietnam, je ne sais pas, la Thaïlande, le Cambodge, Bali. Bref, dans cet épisode, je vais me focaliser sur 11 points pour essayer d'apporter une plus-value à votre itinéraire. Pas forcément sur des points précis, je n'ai pas forcément me focaliser sur une région ou deux, ça on va le faire dans d'autres épisodes, mais cet épisode-là, je le vois comme en fait une espèce d'entrée en matière, peut-être vous donner les clés pour ne pas faire de grosses erreurs avant votre voyage au Vietnam. Avant de commencer par ces 11 points où on va parler trafic, climat, sapa et ce genre de choses, on part pour 2 minutes au Vietnam entre Hoi An, Hanoï et le delta du Mekong. Vous vous êtes plaint qu'il n'y avait pas assez de son dans la première saison. Et donc là, on commence par quelques sons du Vietnam pour se mettre dans l'ambiance. La première fois que j'ai écouté ces 3 sons, je me suis dit « Putain, c'est tellement ça le Vietnam !» Je pense que si tu n'y es jamais allé, tu ne comprends pas trop c'est quoi ces bruits. Ça te paraît peut-être un peu abusé, mais je pense que si tu as déjà voyagé au Vietnam, tu te rends compte « Ah bah ouais, c'est exactement ça !» D'ailleurs, vous entendez peut-être des klaxons derrière. Et oui, bienvenue à Hanoï, bienvenue au Vietnam. Je le rappelle, j'enregistre tous les épisodes depuis Hanoï. Hanoï est une ville très bruyante, comme toutes les villes au Vietnam. Bref, j'espère que vous avez apprécié ces quelques sons. On va commencer par le premier point sur le podcast, qui est la complexité d'un voyage au Vietnam. Je dis la complexité parce qu'en fait, le Vietnam est un pays où on peut vraiment se planter facilement. Je vais prendre l'exemple opposé pour que ça vous parle un peu plus. Vous voyagez au Japon, vous prenez votre vol aller-retour vers Tokyo, vous faites n'importe quoi d'un point de vue d'itinéraire, vous allez quand même vous retrouver à Kyoto, à Osaka, à Tokyo, à Hiroshima, dans les Alpes japonaises, votre voyage va être incroyable. Vous faites la même chose, je ne sais pas, pour la Birmanie, par exemple, qui est un bon exemple aussi. Vous faites tous les incontournables, Yangon, Bagan, Mandalay, le lac Kinlé, c'est un voyage féerique. En fait, le Vietnam, ce n'est pas du tout ça, parce que le Vietnam, c'est un pays très complexe du point de vue des climats, du point de vue des rizières. Il faut impérativement bosser son itinéraire avant d'aller au Vietnam. Je vous prends quelques exemples très simples pour que vous compreniez c'est quoi se planter dans un voyage au Vietnam. Par exemple, c'est d'aller à Hue en décembre. Typiquement, Hue Hoi An en décembre, il pleut à mort. Si vous y passez, il faut déjà avoir dans l'idée qu'il va sûrement pleuvoir, que si vous voyez du beau temps, c'est un coup de bol, et qu'il faut y passer très rapidement. J'ai tous les ans des gens qui m'envoient des messages en novembre et en décembre en me disant « Hey Brice, on est à Hue Hoi An ou je ne sais pas quoi dans le centre, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que là, c'est vrai qu'il pleut beaucoup. Généralement, lorsque vous avez foiré votre itinéraire, c'est parce que vous ne l'avez pas bossé. Alors je dis ça, l'exemple typique, c'est on est en tour du monde, on arrive à Hanoï mardi, puis on ne sait pas trop quoi faire. Ou, j'ai 3 semaines au Vietnam, je vais faire du nord centre sud, mais je n'ai pas trop préparé mon voyage. Généralement, ce qui se passe, c'est que ces gens-là tombent sur le blog au début de leur voyage, du coup, et m'envoient des MP sur Insta, qui commencent toujours par « Salut Brice, blablabla ». Ils me racontent un peu le truc, on est 5, on est 2, je suis toute seule et compagnie, et ça termine toujours par « Et est-ce que tu peux me répondre assez rapidement parce que c'est assez urgent ?» Donc ça, typiquement, j'ai rien contre ces messages, mais c'est juste en fait que les gens ne préparent pas leur voyage, et du coup, ils ne vont pas profiter du Vietnam. C'est un peu comme se dire je vais acheter une voiture et puis en fait on prend la première voiture qu'on a trouvée. C'est un peu bête, il y avait peut-être d'autres choses à faire, d'autres choses à voir, il y avait peut-être des options que vous souhaitiez. C'est la même chose au Vietnam. En fonction de ce que vous appréciez, il faut impérativement adapter son voyage. Il faut aussi l'adapter en fonction des climats. Il n'y a pas de honte à ne pas passer beaucoup de temps dans le nord du Vietnam. Par exemple, en janvier, en février, c'est l'hiver, le temps il est horrible. Dans le sud, le temps il est parfait. En février, c'est la même chose d'ailleurs dans le centre. Là, je viens de recevoir un commentaire il y a quelques minutes, quelques heures plutôt, de quelqu'un qui va voyager en juillet et qui me dit qu'il va passer beaucoup de temps dans le centre, qu'il va passer à Phong Nha, à Hue, à Hoi An, à Thuy Hoa, à Quy Nhon. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui prépare son itinéraire, qui a identifié que juillet, c'est pas génial dans le nord, juillet, c'est pas génial dans le sud. Je vais quand même y passer un peu de temps, mais je sais déjà dans mon approche que... Ça va peut-être pleuvoir, ça va peut-être pas être très bien, mais je vais passer beaucoup de temps dans le centre parce que c'est la bonne saison. C'est exactement ce qu'il faut faire, il faut impérativement que vous bossiez votre itinéraire parce que toutes les destinations ne sont pas bien pour tous les profils de voyageurs. Je prends des exemples tout bêtes, tous les mois il y a des gens qui me demandent comment je peux aller à Hazang et faire la boucle d'Hazang en famille, on fait pas de moto, on a des enfants. Typiquement si vous préparez votre voyage, vous faites pas la boucle d'Hazang avec des enfants, généralement. À l'opposé, il y a des gens qui veulent faire des croisières ou aller doucement, qui cherchent des itinéraires un peu différents, des hôtels un peu différents. Vous n'allez pas tomber dessus par hasard. Pourquoi ? Parce que le voyage classique et le truc nul, c'est de faire le voyage nord, centre, sud en 2 semaines. Mais ça, c'est le second point du podcast. Et oui, j'adore le Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays dingue, mais le Vietnam a un gros problème. C'est que les destinations incontournables que vous voyez souvent dans les guides de voyage ou ce genre de choses, en fait, ne sont pas incontournables du tout. Alors, j'ai pas envie de vous dire, il faut pas aller dans la baie d'Along. Non, je vous recommande d'aller dans la baie d'Along. Mais ce que je vous recommande d'éviter à tout prix, c'est de faire le voyage nord, centre, sud. Typiquement, si vous aviez comme itinéraire, on fait Hanoï 2 jours, ensuite on va dans la baie d'Along terrestre, ensuite on va dans la baie d'Along, ensuite on va à Hue, ensuite on va à Hoi An. Ensuite, on prend un vol jusqu'à Saigon. Ensuite, on fait le delta du Mekong à la journée. Et ensuite, on repart parce qu'on n'a que 13 jours. Ça, c'est le meilleur moyen de louper votre voyage. Pourquoi ? Alors déjà, il y a une raison assez bête, mais c'est que la plupart de ces destinations sont des vraies villes, des grosses villes. Hue, c'est une grosse ville. Kanto, c'est une grosse ville. Saigon, c'est une grosse ville. Hanoï, c'est une grosse ville. Et vous avez peut-être dans l'idée, vous, de découvrir la campagne. Vous allez assez peu la voir lorsque vous faites ça. L'autre point essentiel, c'est le climat. Déjà, toutes ces 3 destinations fonctionnent rarement, hormis en gros en mars ou en avril. Sinon, il y en a toujours une où il ne fait pas beau, voire 2 où il ne fait pas beau. Et enfin, l'autre point essentiel, c'est que les destinations incontournables du Vietnam, je n'ai pas vraiment d'explication. Je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, elles étaient vraiment incontournables, ou peut-être même plus que ça, 15 ou 20 ans. Mais dans l'idée, elles ont beaucoup évolué. Certaines sont devenues très touristiques. Je pense notamment à Hoi An pré-Covid, qui était quand même vraiment assez ardos. Une destination sublime, mais le soir, assez dur. Le delta du Mekong qui s'est vachement développé. Le delta du Mekong à côté de Saigon, il est pas si beau que ça, quoi. Il est assez urbanisé ou assez touristique. Et du coup, le fait de ne pas faire des choix forts va engendrer un risque de ne pas aimer son voyage. Lorsque je dis un risque, c'est aussi parce que je m'adresse ici à des Français principalement. Et les Français, ils n'ont pas envie de voir d'autres touristes, ils n'ont pas envie de voir d'autres Français généralement. Du coup, si vous faites le voyage incontournable parce que vous avez peur de louper, c'est ça le truc. C'est que les gens, ils se disent « Ah ouais, mais c'est incontournable, quoi. C'est marqué, tout le monde y va. » Oubliez ça pour le Vietnam. Je vous prends 3 exemples. Hazang dans le nord, Phu Yen dans le centre et Hanzang dans le sud. Oui, Hazang dans le nord, c'est H-A, plus loin, G-I-A-N-G. Et Anzang dans le sud, c'est A-N, plus loin, G-I-A-N-G. C'est trois destinations de dingue, trois des destinations qui sont parmi les plus belles au Vietnam, je pense. Et pourtant, les gens n'y vont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas assez le temps. Hazang, il faudrait passer une petite semaine dans le nord, en gros. Lanzang, il faut plutôt passer 4-5 jours dans le delta du Mekong. Et Fuyen, bah là, il faut passer encore plus de temps dans le centre parce qu'il faut déjà passer 2 jours à Hue, 3 jours à Hoi An. Donc, si vous connectez un peu les informations là, vous vous rendez compte que certaines destinations qui sont dingues, qui sont les plus belles, nécessitent du temps. Et du coup, ce que proposent les incontournables, c'est en gros un package un peu tout près, quoi. Parce que c'est là où vont les bus, c'est là où vont tous les transports. Pour aller de Hanoï à Hue, bah, c'est assez simple. Pour aller de Hoi An à Saigon, bah, vous prenez le vol, vous prenez le bus, vous prenez ce que vous souhaitez. Pour aller dans Lanzang, ah ouais, là, il faut déjà un peu plus bosser. Où est-ce qu'il va le bus de Saigon qui va dans Lanzang ? C'est quoi Lanzang ? Ah ouais, c'est Cho Dok, ah ouais, c'est Long Xuyen. Mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? En fait, si vous reprenez les deux premiers éléments de ce podcast, vous avez compris que si vous faites le voyage facile sans préparation, vous allez vous retrouver dans les grosses villes touristiques, souvent à des mauvaises saisons. À l'opposé, si vous dites, bah, j'oublie les incontournables, moi, j'ai envie d'aller à Long parce que ça a l'air super. Moi, j'ai envie d'aller à Hue. Bah, Hue, c'est génial. Ou j'ai envie d'aller là, ça fonctionne d'un point de vue des saisons. Il me reste encore 7 jours. Où est-ce que je vais ? Et là, vous allez sortir de l'itinéraire classique. Et là, vous allez aller dans des endroits qui vont être dingues. Et ces endroits dingues, ils existent absolument partout. Je vous ai pris Hazang dans le nord. J'aurais pu vous dire Cao Bang. J'aurais pu vous dire Iti. J'aurais pu vous dire, je ne sais pas moi, Poulong, qui fonctionne très bien pour des familles, par exemple. Dans le centre, on a parlé de Hue. Phong Nha est aussi dingo, d'accord ? Pourtant, il y a peu de gens qui y vont, quelques routards qui y vont, mais ce n'est pas si connu que ça par rapport à Hue ou à Hoi An. On prend l'exemple de Kon Tum dans les hauts plateaux, on prend l'exemple de Phuyen, Thuy Hoa, Quy Nhon dans le centre, on peut prendre l'exemple de Buon Mê Thuot, le lac Lac qui est incroyable. Ça, c'est des destinations qui sont ouf, qui sont parfaites pour des Français. Peu de tourisme, des paysages de dingue, beaucoup de choses à voir, et pourtant les gens n'y vont pas. D'ailleurs, je viens de vous parler de Kon Tum ou de Buon Mê Thuot. C'est assez dur à épeler, mais si vous cherchez sur le blog, vous les trouverez. J'aurais pu prendre encore plus d'exemples dans le delta du Mekong, avec Cho Dok, avec Chavin, avec Vung Liem, avec... Il y a 50 000 endroits dans le delta du Mekong qui sont dingues. Mais du coup, faites attention à ça. Oubliez que les incontournables sont les incontournables et focalisez-vous vraiment sur ce que sont les destinations. Et là, vous allez vraiment en profiter. Ouais, j'ai un peu bafouillé, je suis désolé, mais j'espère que vous avez compris. C'est assez long comme ça pour le deuxième point. On part pour le troisième point tout de suite. Généralement, les Vietnamiens sont très sympas. C'est un point que je souhaite aborder d'un point de vue des gens. Plus vous descendez dans le sud du Vietnam, et plus les gens vont être gentils. Dans le centre, ils sont vraiment sympas. Dans le sud, ils sont pour moi encore plus sympas. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des sourires tout le temps. Ils vont vous dire bonjour avant que vous disiez bonjour. Et ils sont, dans l'idée, encore plus accueillants. Dans le centre, c'est pareil. Dans le centre du Vietnam, d'un point de vue haut plateau ou littoral, c'est un peu la même chose. Dans le nord, c'est un peu moins vrai. Les gens ont tendance à être beaucoup plus froids. Ils vont être très sympas avec vous une fois que vous les connaissez vraiment, donc une fois que vous avez passé du temps. Mais de prime abord comme ça, vous allez passer voir quelqu'un dans Hanoï, la personne ne va pas vous faire deux sourires juste comme ça. Hormis, par exemple, si vous avez des enfants, où là, ils adorent les enfants, mais si c'est vous tout seul, ils ne vont pas venir vers vous plus que ça. C'est encore plus vrai dans les montagnes du nord du Vietnam. N'imaginez pas faire la rencontre d'une vie avec une mamie des minorités parce que vous avez vu trois photos avant sur Internet. Vous avez vu une mamie Red Zao avec un chapeau de ouf rouge, tout un costume de dingue qui était en train de tisser, par exemple. Ça, dans le nord du Vietnam, vous allez avoir peu de rencontres assez authentiques avec les minorités. Bah, déjà, il y a plein de minorités, notamment les mamies qui ne parlent même pas vietnamien, qui parlent encore moins anglais. Donc souvent, vous allez avoir de vraies rencontres si vous êtes accompagné de guides. Je pense notamment quand vous êtes... J'ai un bon exemple à Sapa avec Ethos par exemple. Bah là, la guide, elle est Hmong, elle vient du coin, elle s'arrête pour manger chez elle, elle s'arrête pour dormir chez ses parents. Vous la suivez, vous mangez avec elle, évidemment, vous dormez dans la même maison, j'ai pas envie de dire vous dormez avec elle, mais vous avez compris. Et là, évidemment, lorsque vous rencontrez d'autres Hmong ou d'autres personnes, bah, vous avez un vrai contact, on vous explique, on discute, on fait la traduction, ce genre de choses. Si vous vous baladez tout seul en faisant la boucle d'Azang par exemple en moto, bah, dans l'idée, vous allez parler à aucune minorité. Je dis que vous allez parler à aucune minorité, mais vous allez même bénéficier à aucune minorité. Ça, c'est un élément essentiel. Ça mériterait presque, je pense, un épisode de podcast. Mais pour faire très simple, vous allez vous arrêter dans les villes et vous allez acheter des choses dans les villes. Et les villes sont principalement Viet, donc Kin. Et il y a peu de business qui sont tenus par des minorités ethniques. J'avais fait le test la dernière fois. Donc, je crois que j'ai fait la boucle d'Azang deux ou trois fois. Et la dernière fois que je l'ai fait, je me suis dit combien d'argent je vais vraiment dépenser auprès des minorités. Et en fait, c'est très, 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 très faible. Du coup, je pense qu'il y a au bout d'un moment, pour ces minorités qui voient des touristes passer bah, souvent, qui veulent parfois les prendre en photo, même souvent les prendre en photo, une sorte de, pas envie de dire redondance, mais bon, ils en ont un peu ras-le-bol, quoi. Vous êtes le millième qui passe, vous leur apportez rien du tout. Pourquoi je serais plus gentil que ça? Ça, faites attention à ça parce que ça peut être, je pense, un moyen d'être déçu du Vietnam en se disant qu'on va faire des rencontres incroyables comme de rendez-vous en terre inconnue. Et en fait, dans le Nord, ce n'est pas du tout ça. Un autre élément essentiel que je souhaite aborder, c'est que les Vietnamiens sont généralement pas sympas dans les transports, notamment dans les bus, lorsque vous êtes un routard. Que typiquement, vous êtes un numéro, vous êtes le 10 millième de la journée, ils en ont ras-le-bol. Généralement, ils sont assez peu sympas. Vous aurez aussi probablement deux problèmes au Vietnam. Le premier problème, ce sera avec les cyclopousses, donc les pousses-pousses. Si vous en prenez un, je le recommande quand même de le faire en famille, parce qu'en famille, c'est très simple pour découvrir des villes. Ils sont généralement pas sympas. Il peut peut-être vous demander le double du prix à la fin. Alors vous avez pourtant convenu, ok, 500 000, 500 000, 500 000. Le mec, à la fin, il va vous sortir, ah ouais, mais c'est blablabla, bla bla, mais donc c'est machin, et donc c'est un million. Donc, soyez très fort, ça va être relou, ça va être vraiment chiant. C'est comme ça avec les pousses-pousses. Même chose dans la baie d'Along terrestre, où vous allez avoir les mamies qui vont vous faire tout le speech, blablabla, blablabla, bla, j'ai pas d'argent, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et en fait, à un moment, il y aura quelqu'un qui va vendre des boissons. Et là, la dame va vous dire « Ah oui, j'ai vraiment soif, j'ai vraiment soif. » En fait, du coup, ils vous font acheter des boissons pour elle. Et elle, au prochain passage, elle va rendre la boisson au mec et le mec, il va lui rendre l'argent. Je fais vraiment très simple. Hein. Je fais des grands, grands, grands raccourcis. Mais dans l'idée, c'est ce qui va un peu se passer. Et vous aurez les mêmes problèmes parfois avec des parkings improvisés un peu partout. Vous allez déposer votre vélo. On va vous demander 10 000. Vous n'avez aucune idée pourquoi. Vous dites « Bah, c'est la campagne, je laisse mon vélo. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça au Vietnam. Donc, faites attention à ça. Vous aurez souvent ce problème-là à Hanoï notamment. Un peu moins à Saigon, et aussi dans la baie d'Along terrestre. Mais pour garder et pour être très simple dans mon approche, plus vous descendez dans le sud du Vietnam, plus les gens seront gentils, plus vous ferez des portraits assez sympas. Je sais que c'est un peu bizarre, vous vous imaginez faire des portraits de dingue des mamies, des minorités ethniques dans le nord. Non, vous ferez des portraits de dingue dans le sud. Brice, quand est-ce qu'elles sont belles les rizières en terrasse? Ça, c'est une question que j'ai assez souvent. Pour faire très, 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 très simple. Si les gens ont planté des rizières en terrasse, c'est qu'il n'y avait plus de place dans les plaines. C'est généralement dans des zones assez pauvres et assez peu développées, et ce sont des zones où il y a peu d'irrigation. Du coup, pour planter le riz, il faut attendre que la pluie arrive. Lorsque la pluie arrive, généralement, les touristes déguerpissent. C'est exactement ça. Pour voir de très belles rizières en terrasse, il faut accepter le risque de pluie. Alors, on dit généralement du point de vue des mois que vous allez avoir des rizières en terrasse de juin à septembre. Dans certaines régions, ça coupe un peu plus tôt, dans certaines régions, ça récolte. Enfin, c'est un peu compliqué, mais gardez ça en tête. Si vous ne venez pas pendant l'été, vous n'aurez pas de très belles rizières en terrasse, notamment à Sapa, à Mukang Chai, à Hang Suphi, dans ce genre de régions. D'ailleurs, si vous voulez vraiment vous focaliser sur le nord du Vietnam et que vous êtes assez libre du point de vue de la saison, je vous recommande très, très, très fortement de venir à la fin septembre. Donc, en gros, à partir de mi-septembre jusqu'à la fin septembre, début octobre. C'est à ces moments-là, généralement, qu'il y a la récolte des rizières en terrasse. Beaucoup de gens dans les champs, beaucoup d'activités, beaucoup moins de pluie, puisqu'on va tendre vers octobre. Donc, il y a très peu de pluie, généralement, de grand soleil. Bref, c'est la meilleure saison pour venir dans le nord du Vietnam. Je vous ai dit, les rizières en terrasse de juin à septembre, c'est là que c'est le mieux. Gardez aussi en tête qu'à Poulwong, il y a deux récoltes de riz par an. C'est assez unique pour des rizières en terrasse. Du coup, si vous venez en avril, par exemple, et que vous voulez voir des rizières en terrasse avec du riz, il n'y a pas 50 000 choix. Il faudra sûrement aller à Poulwong. N'hésitez pas à lire le grand guide qu'il y a sur le blog. Sur Poulwong, vous aurez tous les conseils. Cinquième point, le tête. Ah, ce fameux tête. D'ailleurs, je vais publier ce premier épisode du podcast en janvier et à la fin janvier 2023, ça sera le tête. Généralement, les gens s'en rendent compte lorsqu'ils viennent de réserver. Donc là, typiquement, début janvier, enfin, décembre, janvier jusqu'à la fin janvier, je vais avoir des commentaires de gens qui me demandent où est-ce qu'il faut aller pendant le tête parce qu'on ne savait pas et on a réservé notre voyage. Pour faire très simple, le tête, c'est le nouvel an lunaire. En France, on va souvent dire le nouvel an chinois. Mais ne dites pas ça au Vietnam, on dit le nouvel an lunaire. Il y a aussi un nouvel an lunaire, par exemple, en Corée. Gardez à l'esprit que le Tet est une fête principalement familiale, que le pays va quasiment entièrement s'arrêter, et que, pour faire très simple, l'équivalent, je vous dis pas le 31, mais l'équivalent du 31, 1 et 2, donc le dernier jour de l'année précédente, premier et deuxième jour, ce sont des moments qu'on passe vraiment en famille. Donc les gens vont quitter les villes pour rentrer dans les campagnes. Je vous prends des exemples tout bêtes. Lorsque je travaillais dans Hanoï, donc avec le bureau, avec pas mal de gens qui venaient d'autour, bah, ah, cette personne, ah oui, elle est de Nam Dinh, ah, cette personne, ah oui, elle est de Thaï Binh, ah, cette personne, ah oui, elle est de Hoa Binh, cette personne, ah oui, elle est de, machin, je sais plus, bref, bref, Fouto, par exemple. Et en fait, toutes ces personnes-là, lorsque ça va être les vacances du Nouvel An, bah, elles prennent toutes, enfin, moi, c'était beaucoup de filles, en l'occurrence, dans le tourisme, elles prenaient toutes des bus et elles rentraient tous dans la famille. Ça s'appelle, en gros, Vekwe, rentrer à la campagne. Et du coup, à ces moments-là, les villes vont avoir tendance à être un peu désertes. Les business ferment, tous les business ferment parce que les gens veulent rentrer dans la famille, hein, l'équivalent du Nouvel An et de Noël pardon, en France. Donc faites bien attention à ça. Pour avoir des services encore ouverts, il faut impérativement rester dans des zones très touristiques. Je pense notamment à des zones comme Hue, Hoi An, Phu Quoc, puisqu'en fait aussi au bout de 2-3 jours, de plus en plus de Vietnamiens, après avoir passé les premiers jours du Nouvel An en gros en famille, vont prendre un vol et vont aller justement à Hue, Hoi An, Phu Quoc et dans ce genre d'endroit. Donc, faites bien attention, il y a vraiment 2-3 jours qui sont difficiles à passer. Le reste, après, on va dire, ça va. Certains business sont plus impactés, certaines destinations plus impactées. Si vous avez réservé pendant le Tet, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver des choses à faire, mais il va falloir un peu plus se préparer que d'habitude. D'ailleurs, si vous n'avez pas réservé et que vous pensiez voyager en plein pendant le Tet, bah, je vous recommande de ne pas vraiment venir, pour être honnête avec vous. Ce n'est pas le meilleur moment pour découvrir le Vietnam, puisque certains marchés vont être peu ou pas actifs. Plein de vendeurs de je vais la refaire, plein de vendeuses de rue, non c'est toujours pas français ça, je perds mon français moi à force d'être à l'étranger, pas mal de vendeuses de rue bah, vont aussi rentrer dans la campagne donc vont plus trop travailler, donc faites attention à ça, c'est pas vraiment hyper intéressant. Je vous dis pendant le Tet, mais si vous avez la possibilité de voyager juste avant le Tet, là c'est une période qui est assez géniale puisque c'est un peu comme l'équivalent d'aller sur le boulevard Haussmann juste avant Noël. C'est la même chose au Vietnam, vous avez beaucoup plus d'activités, tout le monde se prépare pour le Tet, vous allez avoir beaucoup de vendeuses, des fleurs spécifiques qui vont être vendues dans le nord ou dans le sud par exemple. Donc ça va être des moments où il y a beaucoup d'activités, où il y a beaucoup plus de couleurs que d'habitude. Et donc c'est une période assez spéciale. Si vous êtes juste avant le Tet au Vietnam, n'hésitez pas à aller d'ailleurs à Sa Dec. Sa Dec qui est une destination du sud du Vietnam, connue pour Marguerite Duras, mais aussi connue pour ses... comment dire, ces horticulteurs évidemment, puisque je viens de couper l'enregistrement pour aller chercher sur internet. Vous aurez pas mal de fleurs qui vont être vendues du coup dans les environs de Sa Dec et c'est assez intéressant. D'ailleurs, j'ai pas parlé des dates du Tet. Le Tet est généralement de en gros la fin janvier jusqu'à la mi-février. Tous les ans, ça change puisque tous les ans, le calendrier lunaire change. Et oui, le Tet est l'équivalent du nouvel an lunaire et du coup, il dépend du calendrier lunaire. En 2022, je crois que c'était à la fin janvier, toute fin janvier. En 2023, c'est en gros, pas toute fin janvier, mais plutôt à la fin janvier. Et donc, je pense qu'en 2024, ce sera plutôt en février. Voilà, faites donc attention à ça si vous aviez préparé un voyage à cette saison. Cinquième point, Sapa. Sapa, oh Sapa, c'est pas sympa. Dans l'idée, depuis des années, je milite, je pense que c'est le bon mot, je milite pour que les gens évitent d'aller à Sapa. Alors, par les gens, je pense qu'il faut que je fasse très attention à ce que je vais dire pour ne pas partager non plus de fausses informations. Sapa est une super destination si vous avez peu de temps et si vous êtes en famille. Pourquoi ? Parce que Sapa, c'est très facile d'accès et que ça propose le combo classique rizière en terrasse, marché des minorités ethniques, plutôt dans les environs de Bakha ou à Mong Hum, pas à Sapa directement, mais on peut y aller, et évidemment tous les costumes. Je dis aussi pour les familles, puisque Sapa, c'est quand même du nord du Vietnam assez sublime, il faut bien le dire, mais qu'on peut aussi trouver pas mal de produits assez classiques dont on a besoin si on est en famille, de beaux hôtels ou d'hôtels moyenne gamme avec une piscine, ce genre de choses. Parce que oui, si on voyage avec des enfants, bah eux, c'est pas forcément leur rêve de voir des rizières en terrasse. Eux, ils veulent aussi profiter de la piscine l'après-midi. Donc Sapa est une super destination pour ça. Pour tout le reste, notamment si vous êtes routard en couple et que vous cherchez l'aventure, je vous recommande pas forcément Sapa. Il y a des dizaines d'autres Sapa qui sont vachement plus jolis et vachement plus authentiques. Alors je dis authentique parce qu'en fait, la ville de Sapa est une ville horrible. C'était un village, je ne sais pas, il y a encore 30 ou 40 ans. Maintenant, c'est devenu une ville avec un urbanisme naze. Je pense d'ailleurs que ça devrait être étudié dans certaines universités, comment mal développer une ville. Ça passe, ça ressemble à rien. C'est un mélange d'hôtels, de restaurants, de cafés, de bars, où se mélangent aussi d'ailleurs deux mondes. Vraiment, mais ah, ça ressemble à rien, parce qu'en fait, les Vietnamiens vont à Sapa pour passer de bons week-ends, pour utiliser le téléphérique notamment pour faire des photos, puisque oui, il y a un téléphérique jusqu'au sommet du mont Phan Xipan. Et en fait, les voyageurs étrangers vont pas du tout à Sapa pour ça. Eux, ils veulent voir des rizières en terrasse. Parce que généralement, les Vietnamiens sont moins intéressés parce que des rizières, ils en ont déjà vu beaucoup. Donc, c'est assez drôle de voir ces deux mondes un peu cohabiter. Mais la ville de Sapa en elle-même est horrible. Si vous restez à Sapa, restez surtout à l'écart de Sapa. Je pense notamment aux environs du village de Tavan, mais il y en a d'autres. Mettez Booking ou TripAdvisor sous format carte et regardez, vous verrez très facilement les logements qui sont à l'extérieur de Sapa. Et là, bah, évidemment, vous aurez des vues de malade sur les rizières en terrasse. Et tout de suite, Sapa, ce sera beaucoup plus sympa. D'ailleurs, j'en parle en supplément très rapidement. N'hésitez pas à regarder du côté d'agences de randonnée directement sur place qui proposent des tours différents. Je pense notamment à Ethos, que j'ai utilisé pour ma part et j'ai eu vraiment une super expérience. Mais il y en a d'autres. C'est généralement plus cher, mais votre argent va directement aux gens qui en ont besoin. Donc faites attention à Sapa. Si vous n'êtes pas une famille ou si vous n'êtes pas... Ah, typiquement, vous avez, je sais pas, la cinquantaine, la quarantaine, vous parlez pas anglais, vous dites que oula, Mugong Chai Hong Sufi, ça va être vachement compliqué, on fait pas de moto. Sapa, c'est parfait. Vraiment une super destination. Si vous êtes plutôt en tour du monde, routard ou en recherche d'aventure, bah, regardez d'autres destinations. Il y en a 50 000. Il y en a d'autres qui sont pas si loin de Sapa d'ailleurs. Je pense à Iti, je pense à la boucle de Sinhau qui se font très facilement en moto. Il y en a d'autres pour de la randonnée. Allez à Baka. Baka, c'est une excellente destination qui ressemble à Sapa, mais sans tous les problèmes de Sapa. Donc n'hésitez pas, il y a un article directement sur le blog qui parle du nord du Vietnam avec pas mal de conseils. Mais faites attention à Sapa. Encore une fois, je reconnecte avec le premier point. Si vous ne bossez pas votre itinéraire, que vous vous retrouvez à Sapa pour les mauvaises raisons, vous allez arriver en vous disant « Putain, c'est quoi ce truc ?» Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et le deuxième point, tous les incontournables au Vietnam ne sont pas incontournables. Ils dépendent aussi de la façon dont vous voyagez. Septième point qu'on vient juste d'aborder dans le point précédent, les agences de voyage. Alors j'ai beaucoup de questions sur ces agences, est-ce qu'il faut les utiliser, pas les utiliser et ce genre de trucs. Faites bien attention à ça. De mon point de vue, il est préférable d'utiliser une agence de voyage si vous en avez les moyens pour vous faire un très beau voyage au Vietnam. Encore une fois, je reconnecte généralement avec l'âge, hein, mais vous avez la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, voire plus, vous avez forcément un peu plus d'argent que des jeunes qui débutent dans la vie. Vous n'avez pas forcément le temps d'organiser, vous ne parlez peut-être pas forcément anglais. Bah, dans l'idée, passer par une agence, c'est un peu le meilleur moyen de profiter de son voyage. Il y a pas mal d'agences de voyage locales qui proposent des itinéraires assez différents. Et ça, c'est, je pense, une très bonne idée, honnêtement, pour profiter du Vietnam. Mais vous n'avez pas besoin d'une agence de Vietnam pour... d'une agence de voyage pour organiser votre voyage au Vietnam. Je pense notamment à ce que je recommande d'éviter à tout prix, c'est les agences qui vont vous proposer 2-3 jours, 3-4 jours, ce genre de truc. Typiquement dans le delta du Mekong, c'est généralement la meilleure façon de louper votre voyage, puisque vous allez comparer 7 agences ensemble, que dans l'idée vous allez souvent prendre un peu la moins chère, quoi. Et que ça veut aussi dire qu'eux, ils vont couper dans les prix. Donc, vous allez vous retrouver dans des trucs touristiques qui ne vont pas forcément vous plaire, avec un guide qui est sous-payé, un chauffeur qui est sous-payé, qui va peut-être vous demander un pourboire, etc., etc. Donc, faites attention à ça. Je recommande souvent au Vietnam, si vous avez le budget, passez par une agence de voyage parce que vous aurez un guide francophone, ce genre de choses. Donc, vous allez profiter à fond de votre voyage. Par exemple, avec des enfants, des enfants qui vont avoir 8-10 ans n'ont pas un niveau d'anglais suffisant pour bien comprendre ce qui se passe. Si vous avez un guide francophone, les enfants de 8-10 ans peuvent poser des questions. À l'opposé, si vous êtes en tour du monde, ce genre de truc, évitez de passer par une agence de voyage pour 3 jours dans le delta du Mekong parce que vous aviez la flemme d'organiser. C'est le meilleur moyen d'être déçu et vous allez avoir l'impression de payer pour pas grand-chose. Donc faites attention à ça au Vietnam. Du point de vue des agences, je ne vous recommande pas un nom en particulier. Il y en a pas mal de très bien, notamment à Hanoï. Faites vos recherches, comparez les programmes. Et si vous faites un voyage nord, centre, sud avec tous les classiques habituels, c'est généralement pas bon signe. D'ailleurs, j'ai failli couper cette partie, mais en fait, j'ai oublié de parler d'un point. Gardez aussi à l'esprit que pas mal d'hôtels ou ce genre de choses peuvent vous organiser les transports. Donc si vous cherchiez comment aller de Saigon au Coco River Sai Lodge dans le delta du Mekong, ou de Saigon au Mekong Home à Benche dans le delta du Mekong, vous dites, ah là là, où est-ce qu'il faut que je prenne les... Oh là, comment je vais faire? Est-ce qu'il me faut une agence, ce genre de truc? En fait, il y a un truc tout con. Vous les contactez sur Facebook ou par email. Vous leur dites, salut XYZ, je veux arriver à ton hôtel à telle date. Je veux que quelqu'un vienne me chercher à l'aéroport à telle date. Combien c'est le prix par nuit? Combien c'est le supplément pour le transport? Eux, ils sont habitués à le faire. Quand vous arriverez à l'aéroport de Saigon, il y aura le chauffeur avec le panneau avec votre nom. Vous dites, hey, salut mec, ça va? Il va dire, hey, salut mec, ça va? Mekong Home, Mekong Home. Oui, oui, Mekong Home. Il vous dit, ok, bouge pas, je vais chercher la voiture. Dans deux minutes, je suis arrivé. Le mec, il arrive avec sa voiture. Vous mettez vos bagages. Lui, il sait où est-ce que c'est le Mekong Home. Il y va tout droit. Vous avez mis 2 heures pour y aller. Vous avez passé, je sais pas, peut-être, vous avez dépensé, pardon, 60 euros, un truc comme ça, 70 euros, peut-être 50 euros. Et vous avez gagné un temps fou. Vous n'avez pas eu besoin d'une agence. Vous êtes au Mekong Home, vous êtes au Coco Universal Lodge, vous êtes dans n'importe quel hôtel. Et eux, ils proposent aussi des activités. Donc, si vous regardez sur leur site internet, vous verrez, il y a pas mal de choses à faire. Huitième point de ce podcast, si vous êtes expatrié à Saigon, je vous recommande de sauter cette partie-là. Je vais comparer très rapidement Hanoï à Saigon, faites attention à cela. Pour faire très simple, Hanoï est une ville parfaite pour les Français. C'est une ville qui a son charme, de vieux bâtiments, une vraie ambiance, une gastronomie de dingue. Saigon, à l'opposé, est une ville dont on fait le tour assez rapidement. Si vous avez une demi-journée ou une journée, vous allez aller voir tous les incontournables. Ensuite, il y a évidemment d'autres choses à voir, genre les tunnels de Kouchi, ce genre de trucs. Mais Saigon est une ville qui propose beaucoup moins à la découverte que Hanoï. Alors, généralement, les gens qui habitent à Hanoï n'aiment pas Saigon et les gens qui habitent à Saigon n'aiment pas Hanoï. J'habite à Hanoï, vous tirez les conclusions que vous souhaitez. Mais pour faire très simple, Hanoï est comme une ville un peu plus sympa. Un très gros défaut à Hanoï, qui est un peu moins présent à Saigon, c'est la pollution. Donc si vous êtes asthmatique, faites gaffe, il faudra partir de Hanoï très rapidement, surtout l'hiver. Mais faites attention à ce point-là, si vous avez prévu par exemple 2 jours à Saigon, c'est énorme. 2 jours à Hanoï, ça se fait, 2 jours à Saigon, ça commence à faire beaucoup. Et là, si vous avez prévu 2 jours à Saigon et que vous êtes obligé de passer 2 jours à Saigon, je reviens au point A, il faudra absolument bien bosser votre itinéraire. Oui, il existe d'autres choses à faire à Saigon qui sont super. Je pense notamment au quartier chinois de Cholon qui est incroyable. Il y a quelques croisières à faire, il y a des tours en Vespa, il y a des choses vraiment sympas, mais il faut se préparer. Si vous avez juste votre guide de voyage et que vous arrivez à Saigon un matin et que vous avez 2 jours à remplir, bah c'est exactement le mot. Vous allez remplir, mais ça ne va pas forcément vous laisser un souvenir impérissable. Dépérissable ? Non, impérissable, je crois que c'est le mot. Oui, 1000 excuses, mais après 7 ans au Vietnam, je parle de moins en moins français, il faut bien le dire. Ma femme est anglophone, je travaille constamment en anglais et du coup, je perds un peu mon français. Bon, d'ailleurs, on peut aussi dire que c'est un peu la garantie que je vous donne de bons conseils puisque j'habite au Vietnam depuis pas mal d'années. Je vais revenir très rapidement sur un point que je vois souvent sur Internet qui est le trafic et qui est notamment le fait de traverser la rue. Ne paniquez pas, traverser la rue au Vietnam se fait très bien. Il faut juste arriver avec une mentalité qui n'est pas française. Pourquoi je dis ça? En fait, chaque scooter gère sa ligne un peu lorsqu'ils vont conduire. Les gens ne conduisent pas très rapidement. Vous avez peut-être l'impression qu'ils conduisent vite, mais en fait, pas du tout. Lorsque vous dépassez les 40 km/h, c'est un miracle dans Hanoï, vraiment. Et du coup, en fait, chacun gère un peu sa ligne et ses obstacles. Du coup, si vous traversez la rue tout doucement en fermant les yeux, vraiment un petit pas devant l'autre, personne ne va vous rentrer dedans. Personne n'a envie de vous rentrer dedans. Les gens, ils ont envie d'aller au travail, il faut qu'ils récupèrent les enfants. Ils n'ont aucune envie d'entrer dans un étranger. Par contre, là, ils vont peut-être vous rentrer dedans, c'est si vous traversez la rue en courant ou que si vous avez un comportement qui n'est pas du tout vietnamien. Aucun vietnamien ne court en traversant la rue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous courez, les gens ne peuvent pas prévoir ce que vous allez faire. Donc, allez doucement, vous verrez, vous allez passer très facilement du point de vue du trafic. Ça paraît un peu dingue par moment, mais en fait, les Vietnamiens conduisent doucement en ville. Si vous allez en Thaïlande, que vous allez à Bangkok ou à Chiang Mai, ils bombardent, vraiment, ils bombardent. Par contre, il y a un point là où je ne peux pas trop défendre les Vietnamiens, c'est sur les klaxons. Ils klaxonnent tout le temps pour rien. Ça va vous rendre dingue. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un truc culturel, honnêtement, je n'ai pas les raisons parce qu'ils klaxonnent vraiment pour rien. Il n'y a aucune raison. C'est un peu comme vous quand, je ne sais pas moi... Vous achetez du pain à la boulangerie, le premier truc que vous faites, c'est que vous mangez le quignon. Les Vietnamiens rentrent dans la voiture, premier truc qu'ils font, ils klaxonnent, ils klaxonnent, ils klaxonnent, ils reklaxonnent. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Mais gardez à l'esprit, en gros, que traverser la rue, c'est pas si compliqué que ça, si vous allez doucement. En revanche, faites attention au trafic si vous voulez conduire. C'est quand même un peu spécial, donc je vous recommande pas de commencer le scooter au Vietnam. Dixième point que je souhaite aborder, ne croyez pas forcément les gens s'ils ont un intérêt particulier au Vietnam. Genre, je prends un exemple vraiment tout bête, c'est pour le shopping. Faites attention à ça, j'ai eu le cas plusieurs fois lorsque je bossais dans le tourisme, c'était honnêtement s'exploser la tête contre un mur. J'ai notamment eu quelqu'un qui a acheté des pierres précieuses au Vietnam, puisqu'on lui avait dit que c'était des vraies et qu'elle avait un certificat. Oubliez tout ce qui est certificat et ce genre de trucs au Vietnam, ça n'existe pas, d'accord ? La notion d'ailleurs de copyright et ce genre de choses n'est pas vraiment une notion assez importante au Vietnam. J'ai eu une fois une histoire, mais à mourir de rire, en fait, ma femme ne comprenait pas que c'était interdit d'avoir des faux en France. Pourquoi ce serait faux d'avoir des faux Louis Vuitton ? Ouais, bienvenue, ça c'est la culture. C'est quelque chose contre lequel vous pouvez rien faire, mais dans l'idée, ne croyez pas les gens du point de vue du shopping. Croyez ce que vous allez voir. Si vous voulez acheter des chaussures, des pantalons, ce genre de choses, il faut absolument tout vérifier. Vous allez aller voir notamment souvent dans Hanoï. Vous allez avoir des magasins de marque, hein. Vous allez avoir des gens qui vendent des chaussures, des sneakers, et ils vont vendre des Jordan à 30 euros. Ah oui, là, vous êtes déjà, c'est la bonne affaire, parce qu'elle ressemble vraiment à des vrais, ça a l'air d'être des vrais, et en fait, c'est pas des vrais. Donc faites attention à ça pour un peu tout, que ce soit pour l'électronique ou ce genre de choses. Ces choses-là existent en vrai, hein. Si vous voulez acheter un appareil Canon R5 de malade à 5000 euros, ça existe. Si vous voulez acheter des vrais Jordan de collection à 300 euros, ça existe. Mais lorsque vous voyez quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, bah, c'est que généralement, justement, c'est trop beau pour être vrai. Faites attention à ça. En tant que touriste, vous y êtes particulièrement exposé pour le shopping. Donc, c'est un point essentiel à bien comprendre. Ne faites pas de gros achats au Vietnam. Je vous recommande d'éviter. Dans 2 semaines, vous serez rentré chez vous. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Et même chose, si vous devez envoyer des choses au Vietnam, faites très attention à ça. Les choses n'arrivent généralement rarement, surtout si ce sont des choses un peu spéciales, puisqu'il y a toujours des problèmes avec les douanes et ce genre de trucs. Utilisez, si possible, des services onéreux. Par exemple, si vous devez vous faire envoyer un papier important, une carte bleue ou ce genre de choses, et que vous êtes en voyage et qu'il faut vous l'envoyer rapidement, utilisez des services comme DHL. Oui, ça coûte 50 balles pour une feuille de papier, mais au moins, ça arrive, c'est sûr et certain. Pour le reste, moi, j'ai eu de mauvaises expériences. Pas forcément pour des histoires de vol ou ce genre de choses, hein, mais des trucs tout cons, quoi. Le colis, il est perdu, le colis, il est bloqué, le colis... Il y a 50 000 raisons pour que ça se passe mal. Donc, faites attention à ça. Évitez si possible de faire de gros achats au Vietnam. Vous avez des conseils d'achat sur le blog, notamment sur certaines destinations. Je pense au chocolat, qui est excellent au Vietnam notamment. Je sais que c'est un conseil un peu tout bête, mais j'y pense à ce moment-là, donc je vous le dis. Mais faites attention à tout ce qui est pierres précieuses, pardon, vêtements de marque et ce genre de trucs. Ne croyez personne. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser dans la partie précédente, mais même les magasins, hein. C'est pas parce qu'il y a une enseigne Nike que c'est forcément un Nike. Donc faites gaffe à ça. Le 11e point, et ce sera le dernier de ce podcast, ça va être sur, on va répéter un truc important, le climat. Il faut absolument respecter le climat. Si vous venez en été, il est impératif de passer du temps dans le centre. C'est l'élément essentiel de ce podcast, je vous en supplie. Le Vietnam est un pays de dingo. Il y a des trucs de dingue partout. Mais les trucs de dingue partout, il faut respecter le climat. Hein, c'est exactement la même chose. Si vous voulez voir de la neige dans les Alpes, bah vous n'y allez pas en juillet. Si vous voulez voir de la lavande en Provence, bah vous n'y allez pas pendant l'hiver. C'est exactement la même chose. Gardez ça à l'esprit. Je sais, vous viendrez sûrement qu'une fois au Vietnam, donc vous avez envie de tout voir. Mais je vous assure que si vous faites l'erreur d'aller dans des endroits aux mauvaises saisons, ça va pas vous plaire. Le Vietnam, ça va rester un pays, ouais, sympa. Le Vietnam, c'était comment ? Ah ouais, c'était bien, mais bon, parfois on a eu un peu de mauvais temps, bon, on a eu une ou deux arnaques, mais non, sinon la baie d'Along, sympa. Alors ça, c'est le truc typique, le truc à éviter, hein. Normalement, quand vous revenez du Vietnam, si vous avez suivi les bonnes saisons et que vous avez préparé votre itinéraire, vous venez en vous disant, ah, c'était vraiment un super pays, vraiment super beau, gastronomie géniale, eh oui, parce que vous aviez repéré quelques restaurants, vous aviez compris comment ça fonctionne du point de vue des repas. Donc faites bien attention à ça. Le Vietnam est un pays qui se prépare et il faut impérativement respecter les climats. Ce n'est pas comme les autres pays d'Asie du Sud-Est. Dans le nord du Vietnam, on est plus proche d'un climat chinois. Dans le centre du Vietnam, c'est unique en Asie. Il n'y a aucun autre pays où il pleut en novembre et en décembre en Asie du Sud-Est. Je crois pas que ça existe honnêtement. Donc faites attention à ça, c'est compliqué, mais si vous respectez le climat, vous allez adorer le Vietnam. Et oui, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 2 où on va se focaliser uniquement sur le Vietnam. Pour faire un très rapide résumé, le premier point était sur le Vietnam qui est un pays où on peut facilement se planter et il faut bosser son itinéraire. Le second point était sur les lieux connus au Vietnam qui sont pas souvent incontournables, faites attention à ça. Le troisième point était sur les gens dans le nord qui sont assez peu chaleureux, surtout par rapport aux personnes dans le centre ou dans le sud. Faites aussi attention, vous ne ferez très probablement pas la rencontre d'une vie dans les montagnes du nord du Vietnam, sauf si vous avez un guide. Le quatrième point était sur les rizières en terrasse, qui sont généralement uniquement belles de juin à septembre. Petite mention spéciale pour Poulong, où il y a 2 récoltes de riz par an, contrairement aux autres zones de rizières en terrasse, où il n'y en a qu'une par an. Le cinquième point était sur le Tet. C'est très bien avant le Tet, c'est moyen pendant le Tet, de voyager au Vietnam évidemment. Le sixième point était sur Sapa, qui est une destination que je ne recommande pas, hormis si vous avez très peu de temps, typiquement 2-3 jours, ou si vous êtes par exemple en famille. Le septième point était sur le fait de voyager avec une agence ou pas. Je vous recommande de voyager avec une agence si vous avez le budget, et si c'est d'ailleurs pas vraiment une question, que vous y pensiez déjà dès le début. Si vous êtes plutôt en mode on n'a pas envie de dépenser tant d'argent et compagnie, organisez-vous, on revient au point A, bossez l'itinéraire, vous verrez, c'est très facile de s'organiser sans agence. Le huitième point est sur Hanoï, qui est généralement plus intéressante que Saigon. Me tapez pas dans les commentaires si vous vivez à Saigon. Le neuvième point était sur le fait de traverser la rue et le trafic en général au Vietnam. Oui, c'est facile de traverser la rue si vous oubliez votre mentalité française. Et non, commencer par apprendre le scooter au Vietnam, c'est pas vraiment une bonne idée. Dixième point, c'était sur le shopping. Ne croyez personne. Oui, même s'il y a un magasin Adidas ou un magasin Nike, ils vendent peut-être du faux. Je sais, ça paraît bizarre encore une fois en tant que Français avec notre mentalité, mais ça existe en Asie. C'est comme ça au Vietnam, en l'occurrence. Le dernier point était encore une fois sur le fait de respecter le climat. Je vous en conjure, le Vietnam est un pays de malades. Où que vous alliez, ça va être beau, d'accord ? Vous sortez d'Hanoï et vous faites 50 bornes, c'est très beau. Vous faites 150 bornes, c'est incroyable. Que vous soyez parti nord, est, ouest, machin, c'est tout le temps beau. Donc gardez ça à l'esprit, organisez votre voyage en fonction de la saison et vous verrez, le Vietnam va être un pays de dingue. J'ai failli dire ma boule, ma balle, de malade, je sais pas, mais vous avez l'idée. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre un peu mieux certains aspects du Vietnam, de vous donner quelques conseils si vous préparez votre voyage. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, laissez des commentaires sur le podcast ou sur le blog idéalement. Moi, je vous dis à la prochaine pleine lune pour le prochain épisode.